franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Alain Jean.
Bonjour.
Vous commencez ce matin par un témoignage.
Témoignage glaçant, photo terrifiante. Témoignage d'Ali Arkady à la une de Télérama, l'homme qui en a trop vu. Ali Arkady est un photojournaliste irakien qui a accompagné les soldats irakiens partis à la reconquête de Mossoul. Au départ, dit-il, il veut rendre compte de leur courageux et remarquable travail dans la lutte contre Daesh. Mais Ali Arkady va se retrouver au milieu d'un déchaînement de violence contre des civils avec actes de torture, exécutions sommaires et viols. Il photographie, filme, se dit qu'il est là pour témoigner d'une des vérités effroyables de ce conflit. Les photos, publiées par Télérama, déjà diffusées par Der Spiegel en Allemagne ou le New York Times, montrent ces scènes de torture par des soldats, chiites pour la plupart, qui assouvissent leur revanche sur des sunnites, soupçonnés d'avoir accueilli Daesh avec sympathie, voire d'avoir collaboré. Mais l'histoire d'Ali Arkady va plus loin, car il n'est pas qu'un valeureux passeur. Après avoir fui son pays et publié son reportage, il reprend contact avec la journaliste de Télérama, Julie Benabin, et lui livre une autre vérité qui le hante. Pour gagner la confiance des soldats, le photographe a dû lui aussi commettre des violences. Mis à l'épreuve lors de séances de supplice testées par les tortionnaires qui lui ont dit « Ali, tu es le seul à ne pas avoir frappé », eh bien il prend peur et à son tour il gifle le prisonnier une fois, en frappe un autre une seconde fois. Ali a scellé par la violence la confiance de ceux qui l'entendent dénoncer, écrit la journaliste. Lui ne s'en remet pas. Il finit donc par fuir, aidé par son agence photo qui exfiltre également sa femme et sa fille, tous menacés évidemment par les soldats irakiens qui veulent se venger. À l'abri aujourd'hui, mais il sait que le cauchemar ne fait que commencer. C'est toute une vie à reconstruire avec le fardeau d'une culpabilité qui le harcèlera peut-être toute sa vie. Ali Arkady, l'homme qui en a trop vu et qui nous donne à voir la sale réalité de toute guerre.
Autre information liée à ces troupes irakiennes, Hélène, ce matin dans la presse.
À la une du Wall Street Journal, cette fois, la France tue directement ces djihadistes, directement ou presque. Les journalistes du Wall Street Journal affirment en fait que les forces spéciales françaises feraient appel depuis des mois à l'armée irakienne pour éliminer les djihadistes français installés à Mossoul. Des officiels irakiens interrogés par le journal affirment que des Français sous uniforme irakien recherchent, localisent les cibles qui les intéressent et puis ce sont les soldats irakiens qui terminent le travail en quelque sorte en les éliminant physiquement. Une partie de l'armée irakienne serait donc employée comme un sous-traitant afin de mener des exécutions extrajudiciaires. Ces accusations sont rejetées dans l'entourage des forces spéciales françaises, précise Olivier Four dans un article mis en ligne sur le site de RFI. Elles affirment que la priorité reste d'arrêter de capturer ces djihadistes, réfutent toute liste d'élimination ciblée, mais reconnaissent qu'il y a bien un échange d'informations avec les troupes irakiennes.
En France, Hélène, c'est notre invité Richard Ferrand qui occupe largement la une de la presse.
Oui, une presse assez accablante pour vous, Richard Ferrand. Patrick Cohen l'évoquait il y a quelques instants. L'encombrant Monsieur Ferrand à la une du Parisien aujourd'hui en France. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, titre Libération. Ferrand l'enferré pour l'écho de la Haute-Vienne. La justice n'a jusqu'à présent pas trouvé à enquêter sur ce que Le Monde présentait hier sur cinq colonnes à la une comme un mélange des genres dont vous vous seriez rendu coupable à l'époque où vous dirigiez les mutuelles de Bretagne. Mais Mathieu Delahousse révèle ce matin sur le site de l'Obs que les Républicains ont demandé hier au parquet de Paris, au parquet de Brest, de revoir leur position et d'ouvrir une enquête sur votre opération immobilière de 2011, soupçonnant qu'elle pouvait recevoir la qualification d'abus de confiance, voire d'escroquerie. En tout état de cause, la presse souligne ce matin que cette histoire est particulièrement malvenue pour Emmanuel Macron. Vous êtes un caillou dans ses chaussures pour Libé. Les 12 coups de minuit ont sonné pour Emmanuel Macron, tacle Maud Verniolle dans l'Humanité. Vous êtes une tache sur la belle photo livrée par l'Élysée, dit Cécile Cornudet dans Les Échos. Une vilaine tache sombre sur un début de quinquennat immaculé pour l'opinion. L'opinion qui donne la parole à quelqu'un qui vous défend, ils sont rares. Un autre proche du président, le chef d'entreprise Jean-Marc Borrello. « Je suis choqué, dit-il, par le procès d'intention fait à Richard Ferrand. Cet argument du « c'est légal, mais pas moral » est inquiétant. On est présumé innocent, pas sanctionné, mais on devrait se retirer de la vie politique au nom de la morale. Mais laquelle ? Pour certains, la morale est dictée par des valeurs religieuses. Pour d'autres, par des références idéologiques. C'est très subjectif, la morale, conclut-il. » Morale, légalité, transparence, comment ou fixer les bonnes limites? La difficulté de la tâche qui attend le garde des Sceaux, François Bayrou, explique sans doute pourquoi l'intitulé même de sa loi est si compliqué à trouver. Connue sous le vocable « loi de moralisation », elle pourrait se transformer en projet de loi rétablissant la confiance dans l'action publique, nous révèle ce matin le Canard enchaîné.
Et puis, on termine par des élections législatives, mais pas chez nous.
Non, un petit détour par la Grande-Bretagne, le scrutin c'est le 8 juin, et partie gagnante, la première ministre Theresa May pourrait bien faire les frais d'une campagne ratée, nous dit Libération. Lundi soir, pour la première grande émission politique de la campagne, faut dire qu'elle a été sacrément secouée par un journaliste de Channel 4, Jeremy Paxman, surnommé le Pitbull. Sur le Brexit, qu'elle a pourfendu avant le vote, avant d'être nommée première ministre, Paxman ne voulait savoir qu'une chose. Have you changed your mind? Avez-vous changé d'avis?
We gave people the choice.
You've changed your mind.
I'll answer that in a minute.
Have you changed your mind?
I think there are huge opportunities.
Have you changed your mind? I'm just trying to get an answer. That's all. You can say yes or no. I haven't changed my mind. Yes, I have.
Eh bien, il n'aura pas sa réponse. Elle n'est pas franchement à l'aise, Theresa May. Bingo donc pour Jeremy Corbyn, son opposant travailliste. Non plus, parce qu'à l'écouter sur la BBC, c'est pas gagné. C'est peut-être pas pire. Jeremy Corbyn est interrogé sur le coût des crèches qu'il entend généraliser en Grande-Bretagne. C'est un point phare de sa campagne. Écoutez-le.
Quel serait le coût des crèches pour les 1,3 million d'enfants?
Ça coûtera...
Vous ne savez pas. Vous regardez votre iPad, là. C'est un point clé de votre politique, pourtant.
Je peux vous répondre plus tard.
Voilà. Corbyn incapable sans son iPad de
donner
le bon chiffre.
Il faut voir la vidéo, il compulse son programme, il ramasse des feuilles, c'est
affreux. Il tourne les pages du livre, mais rien, il trouve pas. Voilà,
ça n'en finit plus.
Petit moment de campagne en Grande-Bretagne, gracieusement offert par la télévision britannique.
Merci Hélène Jouan pour la revue de presse.